Et bien, puisque j'ai le feu vert du directeur, nous allons commencer. Vous connaissez tous la fameuse émission de Anne Roumanoff, « On ne nous dit pas tout ». La fois passée, je ne vous ai pas tout dit, et aujourd'hui, je ne vous dirai pas tout, même si je fais des allers-retours. Et surtout, la formalité sera sans doute un peu différente, dans la mesure où nous allons parcourir, si je puis dire, deux siècles, presque deux siècles et demi, d'histoire de l'Église, ce que j'ai intitulé « Église et société, repères et questions ». Église et société pour ne pas se limiter simplement à ce qui est Église, État, étant entendu que je crois que les rapports sont beaucoup plus larges et doivent vraiment être pris dans une plus grande globalité. Et question pour la bonne et simple raison que, étant jésuite, il faut quand même honorer la légende qui dit qu'un jésuite répond toujours à une question par une autre. D'autre part, ce sera peut-être un peu plus rapide, un peu plus éclaté, un peu moins unifié, un peu moins en première apparence, parce que ce que nous allons faire répugne un peu à l'historien, en tout cas dans sa déontologie qui lui est propre, parce que il faut toujours veiller à ne pas abolir la complexité de la réalité. Quand on fait de l'histoire, on s'aperçoit toujours que la réalité est beaucoup plus complexe que ce que l'on ne pense. La vie est plus complexe d'ailleurs que ce qu'on ne pense bien souvent. Et on ne peut pas toujours tout réduire à un ou l'autre principe. D'autre part, on a vite fait de créer des mythes. Je suis en train de lire deux livres sur la Révolution française et deux optiques totalement différentes. Pas pour ça qu'ils disent des choses fausses, ni qu'ils sont contradictoires, mais en tout cas des optiques différentes et qui font qu'on crée alors des espèces de mythes et dont celui que je combats le plus vigoureusement en général dans mon métier, c'est de dire que nos ancêtres étaient plus bêtes que nous. Ce n'est pas vrai, ils n'étaient pas plus bêtes que nous. La preuve, c'est que je voudrais bien voir ce qu'on dira de nous dans 50 ans. En disant, mon Dieu, quelle bande de drôles de personnages, pour rester poli, d'avoir pensé ou d'avoir imaginé ou d'avoir mis en place telle ou telle réalité. Donc toujours bien tenir compte de la complexité, ne pas créer des mythes et surtout ne pas jeter la pierre à nos ancêtres sans crier gare. Cela dit, la semaine dernière, nous avions donc étudié principalement le concordat napoléonien en fonction de tout ce qu'il avait cristallisé, si je puis dire, à partir de la Révolution et les années qui ont suivi cette Révolution de 89. Je fais simplement quelques petits rappels pour ceux qui éventuellement n'étaient pas là, ou si par hasard vous aviez oublié, ce qui est quand même toujours la faculté principale de la mémoire, c'est d'oublier. C'est que ce concordat est avant tout donc un contrat qui offre aux deux partenaires, l'Église et l'État français, une base juridique de discussion pour pouvoir traiter de leurs rapports. On en a vu le contenu, les principaux en tout cas qui sont donnés dans le concordat, qui, comme je vous le disais, est assez court. Un contenu où il y a, comme je le disais, c'est toujours ça qu'il faut bien voir, du dit et du non-dit. C'est bien souvent ce qui est tu est encore plus important que ce qui est exprimé explicitement, et aussi le sens des mots, que recouvre chaque mot qui est utilisé, surtout quand vous utilisez du langage qui est de type juridique. D'autre part, ce concordat comportait une annexe, si l'on peut dire, qui était les articles organiques, que Rome d'ailleurs n'a jamais accepté, et qui, beaucoup plus long que le texte du concordat, multipliait presque à l'infini les procédures. Et donc, dans pareil cas, quand vous avez un contrat et que les procédures sont à la fois nombreuses et complexes, tout dépend bien souvent de la bonne volonté des partenaires, de savoir comment on va s'accommoder, si l'on peut dire, de ce qui est contenu à l'intérieur du contrat tel qu'on l'a signé. D'autre part, je rappelais bien qu'un contrat comme le concordat napoléonien n'avait pas des promesses d'éternité. On pouvait toujours le modifier et il arrivera même, nous verrons dans quelques instants, qu'il sera unilatéralement abrogé par la République française. Cela dit, ce concordat, qui a été donc signé par Consalvi du côté de l'Église et par le frère de Napoléon, de Bonaparte à l'époque, du côté français, les deux principaux signataires, ce concordat a été, si on peut dire, le père ou l'archétype, appelez ça comme vous voulez, de pas mal de conventions que l'Église va signer tout au long des siècles suivants avec des États différents. Cela dit, j'insiste bien, ce n'est pas la seule manière pour l'Église de régler ses relations avec l'État. Il peut y avoir des conventions, surtout quand elles portent sur des points un peu plus particuliers. Parfois, il n'y a qu'un point, si je puis dire, pas de discorde, mais en tout cas, où il peut y avoir les intérêts de l'État et de la société et de l'Église peuvent diverger ou se rencontrer. On peut éventuellement se contenter d'une convention. De temps en temps, il n'y en a pas. Je vous ai montré le cas de la Belgique, où là, il n'y a aucun concordat, même si on applique encore certaines règles concordataires. Et il faut tenir compte aussi, là ce n'était pas le cas directement du côté, dans le cas du concordat de 1801, de ce qu'on appelle les églises nationales, le rôle des églises nationales et des situations qui sont plus locales. De temps en temps, il y a des choses qui ne peuvent ou qui doivent se régler au niveau plus local. Prenez le cas, puisque c'est, je ne dis pas la tarte à la crème, parce que l'expression serait vraiment très mal choisi, mais tout ce qui concerne à l'heure actuelle la répression de la pédophilie à l'intérieur de l'Église, Rome évidemment à ses directives donne une série de principes et de directives bien prédéterminées, mais les églises nationales, locales doivent aussi traiter la chose parce que les législations nationales peuvent différer et donc il doit y avoir de temps à autre des intermédiaires que sont les églises, les conférences épiscopales, les églises locales. Voilà en gros un peu ce que nous avions vu la semaine dernière, donc résumé en quelques lignes, en quelques phrases. Cela dit, de 89, pour faire court, jusqu'à nos jours, il est un fait que le monde a largement changé. Les vies des sociétés n'est pas immuable et l'est beaucoup moins depuis la Révolution française. Louis XVI, quand il se déplaçait en carrosse, n'allait pas beaucoup plus vite que Jules César dans son char 18 siècles plus tôt. C'était à peu près le même rythme. Et le monde, à partir justement du début du XIXe siècle, a véritablement changé et avec une accélération qui est vraiment exponentielle. On est passé d'une société agricole, je ne dirais pas héritée presque de l'homme des cavernes, mais enfin, on vivait encore à cette époque-là sous un mode fondamentalement agricole, terrien, en passant à une société industrielle, et maintenant il paraît que nous sommes dans une société post-industrielle et qui connaît la mondialisation ou la globalisation, selon si vous préférez l'un ou l'autre terme, avec une accélération qui est extrêmement, qui est vraiment très très grande, très très rapide, et avec des répercussions évidemment très importantes sur la vie des personnes concrètes. Quand j'ai commencé mes études universitaires, je travaillais encore avec une machine à écrire. Quand on sort ça maintenant, on vous regarde comme si vous étiez un troglodyte qui était sorti de la caverne de Lascaux. Dieu, on ne s'en est pas plus mal porté, loin de là. Cela dit, la société, à partir de 1789, a donc été organisée, indépendamment maintenant des transformations économico-sociales, qui concernent évidemment fondamentalement les personnes. C'est une société qui a véritablement changé, et dans ses cadres surtout de pensée. Comme je le disais, avec la Révolution, la société est désormais pensée sans aucune référence religieuse, a priori. A priori, on part de l'homme, du citoyen, de la nation et de l'État, indépendamment de toute croyance que les personnes, soit en groupe, soit individuellement, peuvent adopter, peuvent avoir. Quelque chose que je n'ai pas dit la fois dernière, mais qui allait dans le sens de ce qu'est été le mouvement révolutionnaire, c'est que l'État a pris de plus en plus de place dans la vie des gens. L'État est de plus en plus présent pour organiser et en même temps sollicité pour organiser. Ça se comprend dans une certaine mesure parce que bon, les services publics, la défense nationale, cette espèce de chose de cet acabit, eh bien, on voit bien que c'est la puissance publique qui, entre guillemets, doit les organiser. Surtout que beaucoup de ces choses-là, avant, étaient organisées par l'Église. Mais puisqu'on s'organise sans référence religieuse, c'est l'État qui prend la place. Et d'autre part, l'État est de plus en plus appelé à prendre la place d'autres corps, si je puis dire, qui n'est pas le sien, non seulement dans des situations normales, mais aussi dans des situations exceptionnelles. Ou à la moindre catastrophe de nos jours, ben, c'est l'État qui, d'une manière ou d'une autre, doit intervenir. Avant, pour prévenir éventuellement, pendant, quand ça se déroule, et aussi pour gérer parfois les conséquences. Là où vraiment il a pris une place de plus en plus importante, c'est avec les deux guerres mondiales, il a fallu mener des guerres qui ont duré très longtemps, et puis prendre en charge la relève de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, en avaient souffert ou risquaient d'en souffrir encore longtemps. Ce qui veut dire que la loi aussi a pris de plus en plus d'importance, mais surtout avec une législation qui devient de plus en plus abondante. On faisait très peu de lois, mais quand vous regardez le moniteur à l'heure actuelle, ben, il faut le regarder, évidemment, maintenant on n'imprime même plus, tellement il y a de papiers qui peuvent sortir des organes législatifs, avec un point d'interrogation qui est celui-ci, c'est que est-ce que la loi peut tout prévoir? Vous pouvez faire la plus belle règle, mais le contrevenant, lui, en général, il prend un chemin qui est parallèle à ce qui lui est demandé. Or, en matière de contravention par rapport à la législation, l'être humain a une imagination débordante. Et donc là aussi, c'est une grosse difficulté. D'une part, est-ce que l'État doit ou non réguler tout, et je dirais presque n'importe quoi, et comment éventuellement parer à tout ce qui est contravention à cette loi, avec par-dessus le marché, et ça j'insisterai toujours beaucoup là-dessus, la question de savoir si la loi équivaut à la morale ou pas. C'est évidemment un gros problème. Quand vous avez la permission de faire quelque chose, est-ce que c'est non seulement obligatoire de le faire, mais est-ce que c'est bon ou mauvais? Bon, n'entrons pas là-dedans plus longtemps. Ça, je n'en ai pas encore. Cela dit, cette société qui s'organise d'une autre manière, et donc sans référence religieuse, et autour de l'homme, de la nation, de l'État, mais elle doit tenir compte aussi du fait que le religieux a persisté. C'est pas parce que vous décidez d'organiser la société d'une autre manière que les gens deviennent tous des impies et des païens et que tout ce qui est religieux est évacué sans tambour ni trompette. Il y a toujours des croyants, que ce soit des chrétiens ou d'autres religions, mais le religieux fait partie aussi de la vie en société, si je puis dire, à titre individuel, ou à titre plutôt en groupe. Cela dit, au XIXe siècle aussi, on a vu, et là l'Église va être confrontée à pas mal de questions, on a vu la société se diversifier. Avant, on la pensait selon un cadre fondamentalement religieux. Ici, puisque c'est l'être humain qui est la référence première, les formes de pensée de l'être humain peuvent aussi être variées. D'une part, il y a eu ce que j'appelle une influence mondiale de la révolution. même ceux qui étaient les plus anti-révolutionnaires, que ce soit en France ou que ce soit à l'extérieur de la France, ont trouvé que certains principes d'organisation pratique de la vie en société n'étaient peut-être pas si mauvais que cela. Que vous divisiez le pays en départements plutôt qu'en principautés, mais mon Dieu, ce n'est peut-être pas si mauvais de faire des provinces plutôt que de laisser un briquet de broc comme on avait auparavant. Ça, c'est une chose. En matière d'impôts aussi, il ne faut pas oublier que, en général, les États ont trouvé que ce que la Révolution avait mis en place en matière de fiscalité n'était peut-être pas à dédaigner. Et l'Église elle-même a, dans sa, une certaine manière, s'est réorganisée après la Révolution, mais bien plus tard, dans la réalisation de ces deux codes de droit canonique, de 1917 et de 1983, qui sont dans une certaine mesure, je dis bien dans une certaine mesure parce que les principes de code de droit canonique et de droit civil ne sont pas rigoureusement les mêmes, qui se sont calqués, ces deux codes, se sont quelque peu calqués sur les codes napoléoniens. Donc, il ne faut pas croire que l'Église était nécessairement en retard, si je puis dire, de ce point de vue-là. Autre manière de penser, ce sera le libéralisme, nous allons y revenir, avec l'homme au centre de tout. Autre gros problème, ce sera l'industrialisation, avec la naissance de la, si je puis dire, d'une condition, d'une grande partie de la population, une condition relativement dure, avec l'émergence de toutes les formes de socialisme, dont le marxisme qui prendra évidemment une part de plus en plus importante. Autre manière aussi de penser, c'est la forme démocratique, avec comme symbole le suffrage universel, ce qui, avant la Révolution, était impensable. Mais avec toute espèce de conditions précises dans la manière, dans les changements économico-sociaux, il y aura justement cette démocratisation progressive de la société avec l'extension, peu à peu, du suffrage universel. Le XIXe siècle connaîtra aussi la montée des totalitarismes, des nationalismes, pardon, et avec des guerres à répétition. La patrie devient une espèce de dieu aussi. La culture locale ou nationale, tout ce qui entoure, si je puis dire, la vie d'une nation, devient une sorte de déesse qu'il faut honorer et protéger, avec tous les inconvénients que cela va engendrer précisément au niveau belliqueux, et qui aboutiront d'ailleurs à deux guerres mondiales, lesquelles seront aussi favorisées par, au XXe siècle, la montée des totalitarismes, surtout fascistes, avec la version italienne et nazie, et la montée du totalitarisme soviétique autour d'une certaine forme de communisme. D'autre part, une chose que l'on oublie aussi et qui va poser question à l'Église, c'est tout le mouvement de colonisation et autres formes que de mainmise que l'Europe va faire mettre en œuvre sur le monde, puisqu'il n'y a pas que la colonisation, mais René Raymond appelait ça l'européanisation du monde. Le monde va véritablement tourner autour de l'Europe. Autre problème devant lequel l'Église va devoir se positionner. Et au XXe siècle finissant et au XXIe siècle commençant, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les manières de penser qui sont en train de se faire jour, mais les questions et les manières de penser se pressent au portillon. Alors, quelle position de la part de l'Église face à tous ces mouvements qui naissent, si je puis dire, de l'esprit humain et des conditions sociales et économiques dans lesquelles les sociétés sont en train d'évoluer. Il faut bien se rendre compte de ceci, se rappeler, parce que sinon on risque fort peut-être de se tromper devant certaines réactions, devant certains propos de la part de l'Église catholique, qu'elle soit locale ou plus générale, c'est que la foi chrétienne, en tout cas dans sa version catholique, je ne parle pas ici des protestants ni des orthodoxes, ce n'est pas ma chapelle si je puis dire, je me contente des catholiques, la foi chrétienne dans sa version catholique est vraiment englobante de toutes les dimensions de la vie humaine. Elle estime que toute la vie humaine doit être vécue au regard de l'Évangile. Et donc il n'y a rien, si je puis dire, dans ce que l'être humain vit seul et en groupe, qui lui échappe. Ce n'est pas une forme de totalitarisme, mais il dit, voilà, j'ai ma vision de l'homme, et une vision de l'homme qui englobe dans toutes ses dimensions. Donc ça, c'est évidemment un problème extrêmement, une question, une réalité dont il faut vraiment tenir compte si on ne veut pas mal comprendre les réactions, les prises de position de l'Église vis-à-vis de certains phénomènes. D'où se pose la question, est-ce que l'Évangile a quelque chose à dire ou doit-il dire quelque chose? Parce que c'est aussi une autre question, ou doit-il parfois se taire? Doit-il être indifférent ou condamné ou collaborer ou s'accommoder ou construire quelque chose de précis quand des valeurs qui n'émergent pas directement de l'Évangile, quand des valeurs, quand des réalités émergent et qui ne sont pas nécessairement soutenues par l'Évangile. J'ai mis deux petits exemples qui vont peut-être vous faire sourire, en tout cas le premier, le code de la route. Honnêtement, je vois mal Rome ou n'importe quel évêque ou n'importe quel curé commencer à s'en occuper. Bon, que l'État dise qu'on roule à droite ou à gauche, moi ça m'est rigoureusement égal, ça n'a vraiment aucune importance en soi, rouler à gauche plutôt qu'à droite ou à droite plutôt qu'à gauche. Là où l'Église a éventuellement, je vous dirais, doit intervenir, c'est de dire il faut respecter ce code de la route parce que s'il y a des règles qui en soi sont indifférentes par rapport à l'Évangile, s'il y a des règles, c'est pour protéger les personnes. Si vous ne les respectez pas, ben vous êtes un danger public. Et donc là, vous contrevenez au respect de la personne. Mais que les feux soient rouges ou verts, ça, on s'en fiche. Si vous passez au rouge, vous tuez quelqu'un, là, l'Église va vous dire, là, ça, c'est pas la couleur qui importe, mais c'est le fait de contrevenir à une couleur. Un autre problème, qui est peut-être un peu plus délicat, qui est peut-être moins, qui prête moins à sourire, c'est la question du droit de vote. On s'est battu pour le suffrage universel, personnellement, moi je suis pour l'obligation de vote. C'est une opinion strictement personnelle, mais je crois que c'est une importance. On s'est battu pour ça, pour que chacun puisse exprimer son idée par rapport au monde politique et donc par rapport à la gestion de la société. Je crois que l'Évangile a quelque chose à dire, non pas sur le fait qu'on vote à la proportionnelle ou à la semi-proportionnelle, enfin bref, il y a tout un tas de procédures pour qu'on vote électroniquement sur papier, et ça importe finalement très peu, mais que les citoyens soient appelés à participer à la vie de la société parce que chrétiens aussi, ça c'est un domaine où à mon avis l'État, l'Église a son mot à dire et doit encourager les gens à participer à la vie en société, ce qui n'est pas toujours évidemment très simple à faire comprendre à certains. Et d'autre part, une question sur laquelle je reviendrai à la fin, qu'en est-il de la vie humaine en général par rapport à la vie future? C'est aussi un point d'interrogation. Quand on se trouve devant une société qui s'organise, est-ce qu'on doit apprendre uniquement dans ce qu'elle organise pour ici-bas, ou bien est-ce que l'on ne doit pas aussi, comme chrétien, envisager qu'il y a peut-être quelque chose après? Cela dit, faisons un petit parcours. Au XIXe siècle, ou en tout cas jusque les années 1880, les deux grandes bêtes noires, si je puis dire, de l'Église, ce seront les droits de l'homme tels qu'ils ont été définis en 1789 et le libéralisme. On va un peu voir comment l'Église va se positionner par rapport à cela. Pourquoi ? Parce que que la société se soit organisée sans référence religieuse, à la limite on aurait pu encore s'en accommoder. Je savais, si ça s'était fait, je dirais de manière beaucoup plus paisible. Mais les droits de l'homme et le libéralisme surtout, tels qu'ils sont conçus, entraînent ceci, c'est que le libéralisme, c'est comme le christianisme, une philosophie globale. Quand vous regardez toutes les grandes théories libérales, qui n'ont pas été faites par des Français, mais surtout par des Suisses, comme Benjamin Constant, Madame de Staël, qui n'était pas français, mais enfin bon, les Français les réclament, peu importe. Mais le libéralisme entend bien lui aussi contrôler, si je puis dire, ou intervenir d'une manière ou d'une autre de penser toutes les dimensions de la vie humaine. Mais avec une petite différence, c'est ce que j'appelais quand je donnais cours à des séminaristes, je dis que le libéralisme c'est le bonobo du catholicisme. Il paraît que le bonobo est l'être humain, ont un génome ou un ADN, enfin, il ne connaît pas assez, à 99% à des poussières, et qu'il y a donc un petit pourcent qui est un peu différent. Et le libéralisme et le catholicisme, c'est un petit peu le bonobo et l'être humain. La différence est presque imperceptible parce qu'il use rigoureusement du même langage. Et que quand il est né, ce libéralisme, il a utilisé le langage, j'allais dire chrétien, du style liberté, du style famille, du style être humain. Il a utilisé le même langage dans un contexte qui était encore profondément religieux, mais auquel il a donné un sens qui, je dirais, qui dévie d'un tout petit pourcent, mais qui fait que la signification finit par changer radicalement. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui, pour l'Église, évidemment, ça posait question de voir un langage identique, globalisant, mais qui ne représentait pas la même chose que lui. D'autre part, avec cette mise en avant de l'être humain et de l'être humain seul, avec ces principes du style « qui veut, peut », avec l'affirmation du mérite personnel. Alors, le libéralisme, si vous voulez, eh bien vous pouvez. Et le mérite personnel est vraiment mis en avant. Il y a aussi une conséquence extrêmement importante qui est que le libéralisme veut le minimum d'autorité étatique et d'autorité en général qui soit mise en avant. Le libéral a horreur de toute forme d'autorité parce que c'est l'homme qui est maître de son destin et lui seul. Alors évidemment, par rapport simplement à l'État, c'est évidemment déjà une difficulté, parce que l'État doit être mis le plus loin possible de l'être humain et de la vie en société, mais par rapport à la foi de l'Évangile, évidemment ça pose une énorme question, parce qu'il y a dans l'Église, elle a une structure hiérarchique, elle a une certaine autorité, mais fondamentalement tout cela repose sur l'autorité, si je puis dire, de la révélation. Bon, le libéralisme est une manière de penser qui n'envisage même pas qu'il puisse y avoir la moindre révélation. Et pour lui, pour un libéral, le christianisme est une espèce d'abus, si je puis dire, d'autorité en venant avec quelque chose qui est extérieur. D'autre part, pour lui, la raison est le seul moteur intellectuel de l'être humain, la raison humaine. Que faire alors d'une révélation? Et donc, ça va, si vous voulez, mettre l'Église dans une position extrêmement, je dirais presque inconfortable, avoir une révélation et donc une certaine manière d'organiser l'Église avec une certaine autorité, et ça ne veut pas dire un certain arbitrage, hein, c'est pas ça du tout, devant une forme de pensée et donc d'organiser la société qui est diamétralement opposée. Et tous les deux se réclament par le marché de l'être humain et de la liberté. Donc vous voyez un peu la contradiction, ou en tout cas le nœud que cela peut engendrer. Si bien que assez rapidement même, certains catholiques vont se réclamer d'un catholicisme libéral, accepter certains principes de l'autonomie de l'homme beaucoup plus grande que ce qu'on pouvait à l'époque raisonnablement envisager à l'intérieur de la foi chrétienne. Si bien que Grégoire XVI, première encyclique en 1832, Mira Rivos, qui est une charge, mais quelque chose là quand vous le lisez, c'est vraiment le rouleau compresseur contre toute forme de libéralisme, il y a même, je crois en commettant une hérésie, à condamner la liberté de conscience. Je ne le croyais pas jusqu'au moment où j'ai été revoir le texte, non seulement en français, mais le texte latin, et c'est en toutes lettres. Je crois que le scribe qui a commis ce texte s'est un peu perdu, ou embrouillé les pinceaux, puisque même tous les moralistes et tous les théologiens disent que la liberté de conscience est sacrée. Quelques années plus tard, Pie IX remet le couvert avec Quantacura en 1864 et le syllabus, que vous connaissez certainement, 80 thèses qui sont considérées comme étant inconciliables avec la foi chrétienne. La dernière étant que le souverain pontife doit se réconcilier avec le monde moderne, c'était une hérésie. Et dans la foulée va être convoqué le Concile Vatican I, qui va durer donc de décembre 1869 jusqu'à juillet 1870. Pourquoi parler de ce concile? Parce que précisément, il va prendre à bras le corps toutes les grandes questions, contrairement à ce que l'on peut penser, il va prendre à bras le corps toutes les grandes questions qui se posent à l'Église dans la société qui est en train de se transformer. D'une part, ce concile, d'abord, était inachevé. Là, il n'y peut rien, l'Église n'y pouvait strictement rien. Mais étant donné qu'il se réunissait à Rome et qu'en 1870, les troupes italiennes ont pris la ville de Rome, il était difficile de continuer et donc les travaux ont été ajournés, sine die, et il a fallu que les évêques rentrent chez eux. Une grande caractéristique de ce concile, c'est que il était le premier dans l'histoire de l'Église où il n'y avait pas de laïcs. Et quand je dis pas de laïcs, c'est-à-dire pas de représentants des États. On les avait invités à ne pas venir. C'est plutôt dans ce style-là qu'on est allé. Mais c'était une très grande question parce que traditionnellement, dans les conciles, jusqu'au concile de Trente, il y avait des représentants des princes, des rois, ou de certains souverains, ou de certains États, qui y participaient et qui avaient leur mot à dire. Ici, pour le coup, étant donné que tous n'étaient plus de fervents chrétiens, ou en tout cas supposés tels, ben, on leur a dit « restez chez vous et surtout ne vous en mêlez pas ». Mais vous allez voir que ce n'était peut-être pas aussi simple que cela. Ce concile a eu deux grands projets de constitution dogmatique, c'est-à-dire de textes, un qui aurait tourné autour de la foi dans son ensemble, et l'autre autour de l'Église. Et en soi, ce n'était pas mal vu, si je puis dire. C'était une bonne idée. Il fallait, face à ces changements de société qui étaient extrêmement importants, de voir comment l'Église pouvait exprimer sa foi et donc comment elle-même allait se définir et se présenter pour accomplir sa mission qui est la transmission de cette foi. Et quand vous regardez les schémas qui ont été préparés, c'était des schémas beaucoup plus longs et qui étaient extrêmement riches, en tout cas avec la théologie de l'époque, pas non plus faire d'anachronisme, vraiment un credo et une présentation de l'Église qui était vraiment, disons, bien ciselée. Bon, il y avait peut-être des choses qui pourraient nous choquer maintenant, qu'on pourrait trouver trop autoritaires, tout ce que vous pourrez imaginer, mais ce n'était pas en soi, c'était une bonne idée de redire la foi de l'Église et de dire voilà comment l'Église se présente par rapport à cette foi, par rapport à ce monde, par rapport à la mission qu'elle a. Vatican II fera la même chose, mais lui il aura le temps, si vous voulez, d'aller jusqu'au bout et il le fera de manière différente. La seule, malheureusement, on n'en est arrivé qu'à avoir deux textes, Dei Filius, qui est une partie qui concerne la foi de l'Église et qui parle essentiellement des rapports entre la raison et la foi, entre la raison et la révélation, ce qui était évidemment extrêmement important par rapport au libéralisme, puisque lui ne voyait que la raison humaine. Et puis alors l'autre grand texte, Pastori Ternus, qui est un chapitre extrait des 16 qui était destiné à présenter l'Église, qui donne les prérogatives du pape de Rome, et c'est le seul dont on a parlé en matière d'Église, si on peut dire, qui affirme à la fois sa suprématie de juridiction et son infaillibilité, laquelle est définie dans des conditions, vous savez comme moi, extrêmement strictes. Il ne faut pas croire qu'il pouvait parler de la pluie et du beau temps quand il le voulait et comme il le voulait. Ce concile a eu des réactions, engendré des réactions assez négatives parce qu'on l'a trouvé trop dogmatique. Et de nos jours, on trouve qu'il est encore plus dogmatique parce qu'on le compare avec Vatican II, qui lui aurait été un concile pastoral. Alors c'est une aberration dans les deux cas, parce qu'un concile qui ne serait que dogmatique, ce serait un concile qui tournerait autour de lui-même, en dehors du pot ou dans le pot, c'est comme vous voulez. Il doit nécessairement exprimer quelque chose de la foi de l'Église, et forcément il doit être pastoral, parce que si c'est simplement pour discuter entre soi de choses peut-être fort intéressantes, ça n'a vraiment aucun intérêt. Bon, et Vatican II a aussi une partie, si je puis dire, dogmatique. Et donc les deux sont liés. Il a eu des réactions négatives, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, mais aussi il a eu des réactions très négatives et des peurs. C'est pour ça qu'on s'est battu tant, si on peut dire, autour de l'infaillibilité pontificale, parce que les États avaient une frousse phénoménale que, au nom de l'infaillibilité pontificale, Rome, enfin en l'occurrence le pape, ne décrète que tel ou tel régime était bon ou mauvais. Et les premiers qui avaient évidemment cette trouille monumentale, c'était la République française, qui était en voie de laïcisation la plus radicale. Alors évidemment, ils étaient tous à dire « ça ne nous intéresse plus, plus notre affaire », et en même temps, ils étaient extrêmement intéressés de savoir avec quoi, comment, si je puis dire, le pape allait jouer avec ce nouvel instrument qu'on allait lui donner. Allait-il ou non condamner l'une ou l'autre forme d'État? Comme il ne s'en est jamais mêlé, personne évidemment ne peut se plaindre, et par ailleurs, on ne peut pas dire qu'il ait abusé, lui et ses successeurs, qu'ils aient jamais abusé de ce privilège d'infaillibilité en matière de dogme, puisqu'on n'a fait que pour l'Assomption en 1950, et que, honnêtement, tout le monde déjà y croyait. Donc on ne peut pas dire que ce soit un abus. D'autre part, ce concile a été suivi, et c'est là aussi une conséquence un peu inattendue, c'est que les États pontificaux ont été supprimés définitivement. Et là, ça a créé aussi des difficultés entre l'Église et l'État italien, bien sûr, et aussi l'Église et les autres États. Parce qu'on se demandait finalement quel était le statut de celui qui, jusqu'en 1870, avait été un chef d'État comme n'importe quel autre. Ça va durer jusqu'aux accords du Latran en 1929. Je fais ici évidemment un bond assez grand. En 1929, les accords du Latran, je dis bien les accords du Latran, puisqu'il y aura trois accords. Un financier, on va donner au Saint-Siège une somme, 800 millions de livres, en disant on vous dédommage, entre guillemets, de la perte de vos États. Un autre qui règle les relations et le statut à la fois du Saint-Siège et de la cité du Vatican, qui sont deux réalités différentes. Le Saint-Siège étant une personne morale internationale publique, et c'est lui qui représente l'Église, la cité du Vatican étant cette espèce de petit précaré de 44 hectares, qui a toutes les apparences d'un État, et qui permet précisément à cette autorité qu'est le Saint-Siège de pouvoir s'exercer sans la pression de qui que ce soit de l'extérieur. Et donc ce sont deux réalités qui sont relativement, qui sont tout à fait distinctes. Et le Vatican, ben, il a une police, ils font des timbres, il y a de monnaie, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, comme un autre État. Il a même signé le traité de non-prolifération des armes atomiques. Je suppose qu'il y a un missile dans l'obélisque qui est sur la place Saint-Pierre. Troisième accord du Latran, un concordat avec, entre l'Italie et le Saint-Siège, où il y a toute une série modelée un peu sur celui napoléonien, mais qui est beaucoup plus étendue. Ce concile a créé un paradoxe, notamment avec l'infaillibilité pontificale, c'est que ça a, je dirais presque poussé ou amené les papes successifs à multiplier les interventions sur toute espèce de sujet, suite notamment aux transformations de la société, et en même temps parce que la société l'attend. C'est ça qui est un peu un paradoxe, c'est qu'on lui reproche entre guillemets d'être infaillible, mais en même temps, dès qu'il y a un gros problème qui se pose dans le monde, on attend ce qu'il va dire. Et de préférence, évidemment, ce qu'on voudrait bien qu'il dise, et en se disant qu'il arrive souvent trop tard, qu'il dise ce qu'on ne veut pas, enfin, là c'est toujours un peu quelque chose d'extrêmement périlleux, mais en même temps, on attend, et ça a démultiplié. Grégoire XVI, qui a régné pendant des années, avait fait une encyclique, Léon XIII en fera 30 ou 40, si mes souvenirs sont bons, ben, bref, les rotatives fonctionnent assez abondamment. Quelle est l'efficacité d'une prise de position? Ça, c'est toujours un point d'interrogation. Puis on va le voir à Tommy Truet contre le nazisme, c'est pas ça qui a arrêté Hitler. Par ailleurs, s'il n'avait rien dit, on aurait dit, ben, vous vous êtes trompé. C'est toujours un petit peu, c'est un peu comme les parents qui doivent élever des enfants. Est-ce qu'il faut parler ou pas, donner ou pas la fessée, je ne sais pas trop bien quoi, ou éventuellement encourager. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ce concile à la fois qui remodèle, si on peut dire, l'Église, qui redit sa foi et qui prend une série de positions par rapport à la société et déjà aussi par rapport aux États, puisqu'il laisse, si vous voulez, ne prend pas position à leur sujet. Ce sera Léon XIII qui va, le successeur de Pie IX, qui va lui prendre à bras le corps un certain nombre de questions relative à la société de son temps. Léon XIII a produit énormément d'encycliques en piochant d'ailleurs dans tous les travaux préparatoires de Vatican I. Puisqu'il y avait participé, ben, il connaissait la musique, si je puis dire, et il va faire notamment 5 grandes encycliques à propos de l'État. Quelle est la position de l'Église par rapport à l'État qui ne s'envisage plus en fonction du religieux? Et c'était pas mal vu, parce que l'État est plus global que d'autres réalités. L'État, à l'heure actuelle, englobe lui aussi toute la vie de tout un chacun et de tous les groupes. Et c'est là qu'il va énoncer, dans ses 5 encycliques, énoncer ces fameux principes de thèse, hypothèse et d'indifférence au régime politique. La thèse serait évidemment que l'État soit chrétien à 100% et applique le christianisme à 100%. L'hypothèse, c'est de dire, ben, le malheur est que, ou le bonheur, je n'en sais rien, est que c'est pas ça qui se passe dans le concret. Et donc, on doit essayer de trouver l'État qui est le meilleur possible. Rome se montrant, entre guillemets, indifférent par rapport à tout régime politique, pour autant que l'État remplisse son rôle en fonction de ce qu'il pense, de ce que l'Église pense, c'est-à-dire la protection et vraiment l'organisation au bénéfice de la société. Et donc l'État doit être éclairé, doit aussi réfléchir. Vous me direz, ce sont des grands principes, mais enfin, voilà quelle est la position de l'Église par rapport à toute forme politique. Je vous donne l'exemple, on peut le lire, en 1879 par rapport à la Belgique, ce qu'il dira. alors que c'était l'État le plus libéral, comme on l'a vu la semaine dernière, qui était en cause. Les œuvres des hommes ne sont pas parfaites, le mal se trouve à côté du bien, l'erreur à côté de la vérité. Il en est ainsi de la Constitution belge. Elle consacre quelques principes que je ne saurais approuver comme pas. Mais la situation du catholicisme en Belgique après une expérience d'un demi-siècle démontre que dans l'état actuel de la société moderne, le système de la liberté établi dans ce pays est le plus favorable à l'Église. Les catholiques belges doivent donc non seulement s'abstenir d'attaquer la Constitution, mais ils doivent la défendre. Voilà une position, si vous voulez, de sagesse en fonction de l'Évangile et en même temps en fonction des changements. Il adoptera une position relativement semblable, mais un peu plus tard, si je puis dire, vis-à-vis de la France, en disant que la France, c'est ce qu'on appelait le ralliement, la République est le régime du moment. Et donc c'était tendre la main, si on peut dire, à cette République qui, de plus en plus, se faisait laïque, et laïcard dans le mauvais sens du terme, en commençant par s'attaquer aux religieux, qui étaient les grands oubliés du Concordat, avec ce paroxysme que sera la loi de 1901, obligeant toutes les congrégations, tous les ordres religieux qui voulaient rester en France, à se constituer en ce que nous appelons chez nous une ASBL, on appelle ça une loi de 1901, ce qu'on appellerait chez nous une ASBL, donc une loi de 1921, et de devenir une espèce de personne morale, je dirais, publique. Or, c'était mettre à mal la liberté des religieux en réalité, parce qu'il y avait là-dedans aussi le contrôle, la peur des religieux qui étaient reliés, si on peut dire, d'une manière ou d'une autre par rapport à Rome, et en même temps des biens, et en même temps de la possibilité pour les religieux d'exercer un certain nombre d'activités. Ça a provoqué évidemment un grand émoi, un exode immense de religieux français qui sont devenus missionnaires, si bien que cette République finalement a rendu un service à l'Église, puisque des cohortes entières de religieux et de religieuses sont partis à l'étranger porter la bonne nouvelle. Le coup de grâce, évidemment, sera la loi de 1905. On dit toujours que c'est la loi de séparation d'Église et de l'État. C'est pas comme ça qu'elle doit être comprise. C'est la loi qui règle les rapports entre l'Église et l'État. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'il y a, c'est que on rompait le concordat, la République rompait le concordat de 1801, mais de manière unilatérale. Confisquait aussi les biens d'Église, en particulier les bâtiments d'Église, et instaurait une séparation totale entre l'Église et l'État. Bien ou pas bien, ça c'est une autre paire de manches. Il n'empêche que avec cette séparation, j'ai fini le livre malheureusement seulement hier parce que je n'avais pas eu le temps de le faire, c'est que depuis lors, alors que ça rendait une liberté totale à l'Église, et notamment dans la nomination des évêques, il faut savoir que cette loi a créé une rupture des relations diplomatiques, a rendu la liberté aux Églises, mais en même temps, depuis lors, le président de la République française, c'est le dernier chef d'État qui nomme encore des évêques en Alsace-Lorraine. Et quand on voit les interventions d'autorités publiques françaises pour la nomination des évêques en régime de séparation totale, eh bien c'est faramineux. Le nombre d'intervenants est immense. Voilà donc, si vous voulez, une autre manière. Indifférence par rapport au régime, dans la mesure où il respecte l'être humain et sa vocation d'organiser la société, et en même temps une espèce de collaboration qui peut être très proche, ou qui peut en arriver à être totalement séparée, comme en 1905 en France. Autre question que Léon XIII va résoudre, enfin, commencer à résoudre, c'est la question ouvrière avec Rerum Novarum en 1891. On a toujours dit qu'il s'y était pris très tard et on lui a reproché dans son encyclique de ne faire pratiquement qu'une description de la condition ouvrière et de dénoncer la condition ouvrière qui était évidemment extrêmement difficile. Pour lui, il a d'abord dénoncé ces injustices en refusant que l'État se mêle de tout. Il dit l'État ne doit pas nécessairement tout régler en matière sociale, notamment pour la question ouvrière. Il doit intervenir, mais il y a aussi d'autres possibilités. Pour lui, le syndicalisme n'était pas la forme privilégiée d'action pour améliorer la condition ouvrière. Pour lui, il avait gardé des principes, si on peut dire, d'Ancien Régime, qui était le corporatisme, c'est-à-dire une collaboration plus grande entre tous les acteurs de la vie économique, patrons, ouvriers, pour faire court. Pour lui, le syndicalisme était quelque chose qui n'était pas particulièrement bienvenu parce qu'il risquait toujours de créer des affrontements, et des affrontements beaucoup trop grands. Et l'Église, par principe, ne prône pas d'affrontements. Dans tous les cas, disait-il aussi, les principes évangéliques doivent être mis en place. Il faut vraiment agir sur les structures au nom de l'Évangile. Et les chrétiens doivent s'engager là-dedans. Il y a vraiment un encouragement qui a été donné aux chrétiens. Sans oublier que, aussi, il y a. Rome n'a pas été la seule à parler par rapport à l'industrialisation, mais vous avez eu des écoles nationales, si je puis dire, comme celle de Kettler en Allemagne, qui avait fait toute une réflexion par rapport à l'Allemagne qui s'industrialisait. Vous avez la même chose en France avec Demain et en Belgique avec ce qu'on appelle l'école de Liège, avec l'abbé Potier qui a fini d'ailleurs sa vie à Rome comme enseignant. Donc là, avec Léon XIII, vous voyez une inflexion tant par rapport à l'État que par rapport au monde socio-économique tel qu'il est. Si on passe alors au XXe siècle, là il y aura le grand affrontement avec les totalitarismes. C'est assez curieux que Pie XI arrivera à faire un concordat avec l'Italie fasciste, en 29 Mussolini est au pouvoir, qu'il fera aussi un concordat avec l'Allemagne nazie, Hitler venait d'arriver au pouvoir, ce qui est quand même un peu, disons presque, on pourrait presque en sourire, de voir qu'on parvient à faire un concordat avec deux régimes comme cela, en essayant précisément. Il a coulé, ils sont parvenus à couler dans deux textes un peu semblables à celui du concordat napoléonien, à préserver, du moins juridiquement, un certain nombre de droits et de possibilités d'action de l'Église pour le choix des évêques, pour l'enseignement, l'encadrement de la jeunesse, pour le mariage, etc. Mais très vite, le torchon va brûler. On s'était entendu, l'encre était à peine sèche, que les entorses, surtout du côté italien et du côté allemand, les entorses vont se multiplier et on compte par dizaines ce qu'on appelle des notes verbales, c'est-à-dire en fait des écrits, des protestations écrites qu'un ambassadeur, qu'un nonce remet à un responsable politique pour dire telle et telle et telle et telle et telle chose ont été prévues par le concordat, ont été violées. Si bien que Pie XI ira de trois grandes encycliques, Non habeamur bisogno en 31 contre le fascisme, pour dénoncer la mainmise de l'État italien sur l'enseignement, sur la jeunesse, là même une réplique encore plus virulente, si on peut dire, en 37 et rédigée en allemand, de manière à ce que tout un chacun en comprit bien jusqu'au moindre détail, avec contre le nazisme, et c'est-à-dire vraiment cette hyper-puissance, si on peut dire, de l'État, et contre le communisme avec Divini Redemptoris aussi en 37. La difficulté qu'ils vont rencontrer dans ce refus d'un État qui se croit tout-puissant, qui juge de tout, là, c'est que les églises locales vont parfois avoir beaucoup de peine à suivre. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, on vit encore du nationalisme hérité du XIXe siècle. Et les épiscopats de tous les pays ont joué la carte du patriotisme. C'est ce qui se passera pendant les deux guerres mondiales. Et donc il y a toujours une grosse difficulté pour Rome de se dire, est-ce que par-dessus le marché, alors qu'elles n'existent pas encore, mais ce qu'on appellerait maintenant les conférences épiscopales, vont aussi relayer ce que, à Rome, on pense de telle ou telle manière d'agir. C'est très bien de donner des grands principes, mais il faut encore les appliquer sur le terrain. Alors, l'épiscopat allemand avait en gros rejoint le nationalisme allemand. Dire qu'ils étaient hitlériens, racistes et antisémites, ça, c'est, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Mais enfin, en attendant, il y avait une certaine fierté allemande qu'ils ont défendue comme l'épiscopat italien. Bon. Que voulez-vous, les hommes sont ce qu'ils sont. Les deux guerres mondiales, évidemment, vont poser de gros problèmes aussi. Ça aussi, c'est une manière d'envisager la relation entre l'Église et la société et entre les États. Deux guerres mondiales où la première, le Saint-Siège va se poser en neutre, c'est-à-dire je ne prends parti pour personne. En deuxième, il va plutôt utiliser le mot d'impartialité, c'est-à-dire éviter de juger aussi. Parce que ce qui est un peu plus fort, la neutralité, c'est de dire je reste sous ma tente et je ne dis, entre guillemets, je ne dis pas grand-chose. L'impartialité, c'est quand même d'apprécier les choses, de dire attention, ce sont des êtres humains qui sont en train de se battre, ce qui est peut-être aller un peu plus loin. Surtout qu'en 14, le Saint-Siège était mal pris, parce que ceux qu'on considérait comme les bons, c'était la République française laïque, qui avait rompu les relations diplomatiques, les Anglais anglicans et la Russie orthodoxe. On ne peut pas dire que c'était les plus grands alliés du Saint-Siège, tandis que les mauvais, c'était évidemment l'Empire allemand, mais surtout l'Empire austro-hongrois, qui était l'Empire catholique par excellence. Alors vous voyez que c'était un peu compliqué pour eux de jouer. Il n'empêche que Benoît XV, en 1917, a fait des propositions très précises de règlement entre les belligérants, voyant que le conflit s'éternisait et qu'on n'arriverait à rien, et qui ont été rejetées parce qu'il avait eu cette idée qu'il fallait une paix juste qui n'écrase personne, qui ne lèse personne. Donc, reconnaître les victimes, reconnaître peut-être qu'il y avait eu des agressions, qu'il y avait eu des exagérations, mais en même temps qu'on ne pouvait pas non plus écraser. On ne peut pas, l'ennemi peut toujours, entre guillemets, se convertir. Cela dit, les églises nationales, là aussi, sont entrées dans la voie du patriotisme presque exacerbé. De temps en temps, il y a eu des choses. Le cardinal Mercier, ici en Belgique, en 14 par exemple, a pris des positions qui étaient vraiment radicales, à tel point que même le roi Albert lui a écrit un jour en disant « Écoutez, vous y allez trop loin ». Pourtant, Dieu sait si le roi Albert avait quand même à la fois du prestige, mais aussi une responsabilité extrêmement grande. Avec Jean XXIII, les choses aussi vont un peu prendre une autre inflexion, avec ces deux grandes encycliques, Mater et Magistra, où il va faire, évidemment pas entrer dans tous les détails, une grande distinction entre les doctrines et les personnes. Il y a des doctrines qui sont peut-être fausses, qui sont peut-être mauvaises, contradictoires avec l'Évangile, mais il faut toujours tenir compte des personnes concrètes. Et un communiste peut être, entre guillemets, sincère. C'est pas pour ça. On ne peut jamais dire qu'un bon communiste est un communiste mort. Non. Entre la doctrine et les personnes, il faut toujours faire la distinction. Et tout en insistant sur le bien commun, eh bien, il va revisiter, si je puis dire, commencer à revisiter les droits de l'homme en parlant de droits, effectivement, mais aussi de devoirs. Si vous avez un droit dans la société, vous avez aussi des devoirs vis-à-vis de cette société et vis-à-vis d'autrui. On parlerait en termes strictement chrétiens, je dirais de charité, ce qui se comprend aisément. Et avec Paul VI, je m'arrêterai là pour le parcours. Là, je dirais que c'est un précurseur de la globalisation. Si vous avez un jour le temps, lisez son fameux discours devant l'ONU en 1964. Je crois que c'est un des plus beaux textes qu'il ait écrit, à mon avis, quand il a parlé, il a été reçu devant l'ONU. Donc quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, si on peut dire, c'est pas le président des États-Unis, ni de la Chine, ni on ne sait pas quoi. Staline avait bien dit, le pape combien de divisions. Oui, pour en rigoler, mais en attendant, Paul VI se fait inviter par l'ONU et tient un discours où il a cette phrase remarquable: l'Église est experte en humanité. Mais on sentait, si vous relisez tout ce texte, vous avez le temps, on sentait tout le poids de l'Évangile pour vraiment promouvoir la personne humaine dans toutes ses dimensions, et qu'il poursuivra avec Populorum Progressio en 67, où la paix, donc un problème fondamental, où il dira la paix est vraiment ce qui est la source du développement d'un monde qui était en train de vraiment de se déchirer du point de vue économico-social. Voilà un peu un parcours, je sais qu'il est un peu rapide, et il faut parfois un peu se glisser entre des et ou des futés. Alors je vais terminer en posant quelques petites questions. Quand on parle des relations entre l'Église et la société, qu'elle soit au niveau local ou qu'elle soit au niveau plus général, il faut évidemment toujours savoir à qui on a affaire. Avec qui est-ce qu'on désire ou on doit s'entendre? Qu'est-ce qu'il pense? L'Église est relativement stable, fondamentalement, parce qu'on a un phare, si je puis dire, de base, qui est la révélation. L'Évangile est une borne, je dirais, incontournable. Mais l'interlocuteur, lui, il a peut-être un autre Évangile que le vôtre. Ce n'est pas nécessairement les mêmes principes. Deux, l'Église, quand elle traite de ce genre de choses, elle entend toujours, quand on relit tous les concordats, toutes les conventions, tous les discours, elle entend toujours maintenir certainement sa mission propre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la liberté religieuse. À ne pas confondre avec la liberté de conscience et la liberté de culte. La liberté religieuse, ça veut dire ceci, la foi chrétienne ne se limite pas, comme le faisait le concordat de Napoléon, à penser que la religion est une affaire purement extérieure. Non, l'Église estime que, en fonction de sa foi, elle a toute une série de missions, que ce soit l'enseignement, que ce soit le caritatif, que ce soit la morale, toute une espèce de réalité sur lesquelles elle doit pouvoir s'exprimer et elle doit pouvoir agir. Et le choix des évêques, évidemment, dans toutes les conventions, est toujours un des points les plus difficiles parfois à faire admettre. Bon. On peut le regretter, mais ça, ou l'approuver, ça c'est comme on veut. Mais ça, c'est toujours, je crois, une question vraiment importante, la liberté religieuse. Et quand vous trouvez, vous rencontrez d'autres religions sur le même territoire, les choses ne sont pas toujours faciles à résoudre. D'autant que, et c'est trois points en tout cas qui me paraissent fort importants, c'est que Vatican II, pour l'époque actuelle, Vatican II, quand vous relisez tous les textes, a mis un accent très très fort sur la valeur de la vie sur terre. A vraiment insisté sur la valeur de ce que nous vivons ici sur terre. Ce n'est pas un enfer, ça ne peut pas être un enfer perpétuel. Et il a mis en avant, il faut bien le dire, des questions qui ne sont pas anodines. La pauvreté, la violence, la guerre, tout ce que vous pouvez imaginer, il en parle, on voit bien que ce sont des choses qui détruisent l'homme sur terre. Donc il y a vraiment une mise en avant de la valeur de la vie sur terre. Donc ce sont les questions du respect de la personne d'avant sa naissance jusqu'à sa mort, ce sont des questions qui se posent de nos jours et que l'Église entend bien prendre en considération. Mais la question se pose, est-ce que tout cela est vu aussi avec une vie future? C'est ça la difficulté. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui doivent être prises en considération? N'oubliez jamais que nous vivons économiquement sous le régime de la société anonyme. Et une société anonyme, elle ne meurt pas. Parce qu'on ne sait pas qui est derrière. Elle est anonyme. C'est la plus belle preuve, entre guillemets, de l'immortalité. On vit en régime de société anonyme, donc il n'y a pas d'au-delà. Or, l'Église croit en une vie future, en la résurrection, une vie future. Alors, comment est-ce que cette société qui est la nôtre doit s'organiser pour que ce que nous vivons ici ne soit pas un bagne perpétuel, parce que ce n'est pas digne de l'être humain, mais que cette dignité ait, ou soit préparée de manière à être vécue, je dirais, de l'autre côté. C'est aussi une difficulté. D'autre part, elle privilégie le régime démocratique, c'est son régime préféré, mais est-il transposable, importable, si je puis dire, partout, ça c'est une chose, et n'oubliez jamais que le régime démocratique est un régime d'intellectuels, parce que pour jouer, oui, pour voter, il faut comprendre ce que on vous dit, ou ce qu'on vous propose. C'est le régime le plus poussé, où l'intelligence humaine, et où le cœur peut-être, est le plus sollicité. Une fois que vous avez une dictature, plus personne n'a rien à penser. La démocratie est un régime d'intellectuels, donc il y a vraiment une prise en considération aussi de l'intelligence humaine. Et je termine alors sur la question, j'ai eu trois petits points, c'est qu'une des difficultés, je crois, que l'Église rencontre encore maintenant et que tous les chrétiens rencontrent, c'est ce que j'ai appelé l'immortalité du libéralisme. Beaucoup de législations qui concernent, c'est pas simplement les feux rouges ou les feux verts ou les plates-bandes des jardins publics, hein, ça on s'en fout, mais les grandes questions qui se posent dans notre société, si vous regardez bien, c'est même posées par les socialistes les plus rabiques et les laïcaires les plus rabiques et les plus incroyants les plus rabiques, c'est du libéralisme pur. C'est du libéralisme pur. Trois petits points. Je vous laisse la parole pour les questions.